Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Natacha.
Bonjour Élodie.
Bienvenue dans cette émission de mai. La thématique de notre émission est au cœur de l'actu politique. Alors, on n'aurait pas forcément choisi ces angles pour la traiter. Et oui, il faut remettre en marche l'autorité parentale, selon notre Premier ministre. Il faut réarmer démographiquement et rendre obligatoire un devoir des visites des pères pour le président, parce que, comme il le dit, un enfant heureux, c'est avec un papa et une maman. Ça sent bon la manif pour tous et les relents réac, tout ça. Quand on est féministe, quand on est une femme, qu'on discute avec d'autres femmes, des mères notamment, ça fait quand même bien rire jaune, ça met même en colère un peu. Aujourd'hui, en France, une famille sur quatre est monoparentale. Parmi elles, 8 sur 10 sont gérées par des mamans. Parce que bon, faut pas se voiler la face, ils sont pas très nombreux les hommes qui en veulent de cette place ingrate. Ingrate, parce que, et on l'a déjà évoqué en 2024, 2/3 des femmes assurent toutes les tâches ménagères à la maison. 85% des rendez-vous chez le pédiatre sont pris par des femmes, ça veut donc dire qu'il faut y penser. 1/4 des femmes n'ont toujours pas repris le travail 5 ans après la naissance de leur premier enfant. Alors c'est quelques chiffres, mais on pourrait continuer pendant un moment et on en reparlera dans l'émission. Ben oui, c'est un peu relou d'avoir à gérer un autre que soi-même. Ça fait quand même du boulot. Parfois même, on entend le mot « sacrifice » dans la bouche des femmes. D'ailleurs, ça fait même culpabiliser de le dire ce mot. Sacrifice, culpabilité, je vous raconte pas ce qu'il se passe dans la tête des mères. Le corps, c'est plutôt visible, assez vite. Et tout ça pour qu'aujourd'hui, deux mecs qui ont même pas de gosses viennent nous dire « faites des gosses, élevez-les bien avec 5 fruits et légumes par jour, pas d'écran et un uniforme bien repassé » et « vous inquiétez pas, papa, nous les hommes et tous nos copains, on chargera de les mettre au pas, sur nos pas. Enfin ça dépendra de l'origine de l'enfant. Ouais, voilà, ça me met en colère en tant que femme et en tant que mère, parce qu'encore une fois, on tente d'enlever aux femmes cette puissance qu'elles ont en elles, de la récupérer pour la contrôler, au lieu de l'accompagner, la célébrer et en faire un point majeur pour construire un système autour. Et puis alors, dans cette émission, on parlera de la maternité, mais aussi du choix que font certaines d'entre nous de ne pas être mère, parce qu'on est libre et qu'on ne se laissera pas faire.
La France célèbre aujourd'hui la journée des mères. Fête émouvante en l'honneur de celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts. Dans les mairies, les mamans de plus de 5 enfants reçoivent un diplôme officiel remis par le représentant du gouvernement.
Mon premier garde-bébé bien au sec. Mon deuxième a des attaches agrippantes qui se ferment et se referment à volonté. Mon troisième prépare une surprise pour la fête des mères. Mon tout, c'est Pampers, qui va faire gagner des fleurs aux mamans. Si vous en connaissez une, appelez-nous au 0800 00 1997. Pampers souhaite une bonne fête à toutes les mamans.
Souvenons-nous que dans les familles russes, chez nos grands-mères et arrière-grands-mères, il y avait parfois 7 ou même 8 enfants dans la famille, et même plus. Il est temps de sauvegarder et faire renaître ces merveilleuses traditions.
Bonne fête, maman !
Merci, ma chérie !
Tiens-les ! Nous appliquerons des mesures politiques pour stimuler le taux de natalité. Et nous mènerons une stratégie nationale pour répondre au vieillissement de la population.
Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité, pour permettre justement ce réarmement démographique.
Voici revenu. Avec le dernier dimanche de mai, la fête la plus émouvante et certainement la plus charmante de l'année, la fête des mères.
Comme toutes les mamans sont des anges, Gervita leur souhaite une bonne fête.
On peut entendre en vrac l'annonce de la fête des mères par les infos sous le régime pétainiste de Vichy, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Emmanuel Macron et Raymond Marcellin, qui était ministre de la Santé publique et de la Population sous De Gaulle, et puis des publicités très adaptées. Michel, comme toujours, il est bon de faire des rappels de contexte historique.
Bah, pour paraphraser Simone de Beauvoir, on pourrait dire « on ne naît pas mère, on le devient ». Le caractère inné de la maternité est des plus contestables. Être mère, être une maman, est une expérience qui se vit et qui se construit à chaque instant. Maternité semble rimer avec déterminisme féminin. La vocation à la maternité des femmes a façonné leur rôle social. La femme est réduite à une matrice et la maternité se confond avec la nature féminine. La stérilité féminine est vécue comme une malédiction, un mauvais sort. Mais une femme qui ne peut pas avoir un enfant reste une femme.
Alors, avoir ou ne pas avoir d'enfant ?
Le refus d'avoir un enfant, comme la volonté d'avoir un enfant, semble relever de l'irrationnel, voire du caprice. Ne parle-t-on pas du désir ou de l'envie d'enfant ? On peut refuser d'être mère, mais également refuser d'être la mère de l'enfant que l'on a enfanté.
Et la littérature est pleine de belles phrases célébrant la maternité.
Victor Hugo. Il y a toujours quelque chose de sacré, de divin, de vertueux dans le sentiment de la maternité.
Chateaubriand lui affirme « La maternité, une espèce de sacerdoce de la nature ».
Émile Zola. La maternité achevait d'équilibrer son tempérament. Maintenant, tout son être s'était apaisé. Le mariage avait mis en elle une sorte de maturité précoce. Son corps prenait un léger embonpoint. Il avait des mouvements plus doux, plus mesurés.
Dumas père. Douceur, joie de la maternité. On dit que le sentiment de la maternité est le plus sain de tous.
Romain Rolland. Lorsqu'elle entendit son premier cri à la lumière, lorsqu'elle vit ce petit corps pitoyable et touchant, tout son cœur fondit. Elle connut en une minute d'éblouissement cette glorieuse joie de la maternité, la plus puissante qui soit au monde et la plus grande vague d'amour qui remue l'univers, l'étreignit de la tête aux pieds, la roula, la souleva jusqu'aux cieux.
Oubliant les infanticides, les denis de grossesse et tout simplement le non-désir d'enfant, le monde entier, à toutes les périodes historiques, célèbre la maternité.
Et chaque année, la fête des mères revient dans les médias.
Souvent attribuée au maréchal Pétain, elle serait l'emblème de l'assignation de la femme au seul rôle de mère. Pour beaucoup, au-delà du cliché du collier de nouilles concocté sur les bancs de l'école, elle signifie plutôt tendre cadeau offert par les enfants à leur maman. La fête des mères est héritière d'une tradition très patriarcale. Si elle n'a pas été inventée par Philippe Pétain, elle lui doit une journée nationale et de symboliser le « travail, famille, patrie », devise de la Révolution nationale.
Alors, elle date de quand, cette fête finalement ?
Cette fête, elle remonte en fait aux temps les plus anciens. Le culte antique aux déesses mères date de la préhistoire, féminité, fécondité, maternité. De la préhistoire jusqu'à l'Antiquité, le bassin méditerranéen et l'Occident européen rendent hommage à des mères universelles. Figures religieuses et mythologiques, ces représentations célèbrent les vertus de la fécondité et de puissance tribale autour des mystères de l'engendrement. Chez les tribus du Paléolithique et du Néolithique, ce sont des mères au bassin imposant, comme la Vénus de Willendorf. Avec l'écriture, ces déesses-mères sortent de l'anonymat. L'anatolienne, Cybèle, est l'équivalent de Rhéa chez les Grecs, laquelle représente la mère des dieux. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Romains rendent aussi hommage aux femmes et aux mères. Cette femme porte le nom des matrones et célèbre Mater Matuta, la déesse de l'aube et de l'enfantement. Dans les panthéons nordiques et germaniques, ce sont les Freja et Frigg qui jouent ce rôle de divinité à la fois de l'amour et de la maternité, tandis que Dana, chez les Celtes, est la mère primordiale des anciens elfes, célébrée elle aussi par une fête de la nuit des mères.
Et un basculement au Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge abandonne les croyances païennes. Le christianisme occidental érige Marie, la mère de Jésus-Christ, en paragon de vierge, de femme, d'épouse et de mère au sein de la Sainte Famille. Notre mère, mère de Jésus, est aussi adorée que Dieu. Les épisodes révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle créent une fête de la maternité. D'abord décadie de la tendresse maternelle, journée des époux, journée des mères, jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte fige l'ordre hiérarchique familial et l'assignation des femmes à la conjugalité et à la maternité dans le code civil. Au XIXe siècle, le déclin démographique français relance la volonté d'accroître la natalité et offre aux mères de famille nombreuses une célébration publique.
Et alors, le féminisme dans tout ça ?
La forme actuelle de la fête des mères naît au final de la rencontre au cours de la Première Guerre mondiale entre la fête sentimentale de féministes américaines et la fête nataliste des populationnistes français. La présence en France d'un corps expéditionnaire américain favorise en effet la diffusion du Mother's Day, journée des mères. Aux États-Unis, initiée par la féministe Anna Jarvis, elle est décrétée fête nationale en 1914 par le président Wilson.
Et Pétain dans tout ça alors ?
En 40, en imposant la préparation de la fête des mamans à l'école, le maréchal Pétain en a fait un hymne à la mère au foyer, avec la création d'une journée nationale annuelle de fête des mères le 25 mars 1941. Le natalisme trouve sa liturgie, fleuron du pétainisme au sein de l'occupation allemande. Les 4e et 5e républiques entérinent cette pratique. Par la loi du 24 mai 1950 et le décret du 24 janvier 1956, la fête des mères appartient désormais au calendrier républicain. La marchandisation fait le reste, même si les critiques féministes n'ont pas manqué. Dès le départ, la fête des mères est devenue une tradition.
On peut parler d'une tradition dépassée ?
Fête de la maternité, donc de la fécondité. La fête des mères a traversé des siècles comme un hommage aux fonctions biologiques des femmes et à leurs fonctions sociales de mère au foyer. La société de consommation s'en est emparée, des bouquets de fleurs à la panoplie de l'électroménager. Rappelez-vous, Moulinex libère la femme, en passant par les articles de lingerie et de parfumerie. Cette fête a ses défenseurs, souvent partisans d'un modèle hétéronormé. Elle a aussi ses opposantes et opposants à travers certains mouvements féministes qui la dénoncent comme la symbolique patriarcale de l'événement. Aujourd'hui, les familles monoparentales recomposées ou homoparentales la remettent en question. Dépassée, voire ringarde pour certains, la fête des mères reste incontournable malgré les mutations sociétales qui modifient le modèle familial, révolutionnent le rôle des femmes. Au-delà de ces remises en cause, l'impensée sociale d'une assignation des femmes à être de bonnes mères a encore de beaux jours devant lui.
Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils et les canons, fondant le monde des entailles, couvrant le mort, les plaines et les vallons, puisque les hommes sont des sauvages, qui réunit la fraternité, femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans. Tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre les barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
Et nous venons d'écouter le titre « La grève des mères » reprise par le groupe « Les amis de ta femme ». Cette chanson a été écrite en 1905 par Montéus, un chansonnier français. Dans cette chanson, Montéus dénonce les horreurs et ravages de la guerre. Elle exhorte les femmes à faire la grève de la natalité pour ne plus donner de fils comme chair à canon aux bourreaux de guerre. La chanson à l'époque est censurée et Montéus est condamné pour incitation à l'avortement.
La question du corps des femmes est politique, hein, on l'a dit au travers de nos émissions. Et quand ce corps produit de la chair à canon, de la main d'œuvre ou un nouvel outil de reproduction, il s'intègre même dans des stratégies et des agendas politiques. Deux livres autour de cette question, Joël.
Ben oui, dans les années 60-70, l'État français encourage l'avortement et la contraception dans les départements d'outre-mer, alors qu'ils sont interdits et criminalisés en France métropolitaine. Françoise Vergès, avec qui nous nous sommes déjà entretenus dans cette émission, là, ici, cette année, travaille sur ce sujet. Son livre « Le ventre des mères » relate, entre autres, le cas emblématique de la Réunion en 70, où avortement et stérilisation sans consentement ont été des pratiques très lucratives pour certains médecins blancs. Un système bien huilé, sous prétexte d'actes chirurgicaux bénins, par exemple quelqu'un qui a des douleurs au ventre, donc éventuellement une appendicite, ces médecins touchaient des primes spécifiques aux soins pour des personnes sans ressources et c'était un leurre pour faire leur sale besogne. En fait, c'est à ce moment-là qu'ils avortaient ou qu'ils stérilisaient les femmes. Un détournement des fonds publics connu de l'État français, encouragé aussi, c'était le moment où il y avait Michel Debré qui était député là-bas. C'est un vrai crime d'État. Françoise Vergès parle de la politique de la gestion du ventre des femmes, stigmatisées en raison de la couleur de leur peau, à ce moment et là-bas. Dès 1945, en évoquant la surpopulation de ces anciennes colonies, l'État français prône le contrôle des naissances et l'organisation de l'immigration. C'est vrai que si on fait partir les gens, et ils ne font pas d'enfants là-bas. Ou comme les élus de la République utilisent le sujet de la natalité et la maternité à des fins politiques. Dans cette période, donc entre 60 et 82, l'État français, via le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, le BUMIDOM, il organise les migrations d'environ 160 000 ressortissants des DOM en France, dont 65 000 réunionnais et réunionnaises, histoire de juguler les mouvements anticoloniaux qui sont en train de se mettre en place.
Et Françoise Vergès s'attache à la notion de genre dans son essai.
Oui, c'est ça. L'un des aspects méconnus de cette migration organisée, c'est sa dimension genrée. Le tiers des migrations de travail organisées par le BUMIDOM concerne des femmes. Et cette proportion féminine est encore plus élevée dans le cas de la Réunion à cette période. Alors c'est la main d'œuvre pour l'industrie et puis le service. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir beaucoup de femmes black dans les hôpitaux. Dans la région parisienne et puis après en province. Alors que les migrants étrangers sont souvent dans les années 60 et 70 des jeunes hommes célibataires, cette importante population féminine participe à la volonté de cette institution de régler par la migration ce qui est considéré comme avant tout comme un problème démographique. De manière générale, les migrations féminines restent peu étudiées et je pense que ça pourrait être l'occasion d'une de nos émissions, la migration féminine. Je me souviens, pour ma part, dans notre région, là, ici, autour de Bourg, de femmes réunionnaises qui arrivaient dans les campagnes et qui faisaient des gentilles campagnes pour les vieux célibataires. Quelques lignes de ce livre.
En continuant à faire des enfants, les femmes réunionnaises des classes populaires auraient résisté aux injonctions de l'État. L'esclavage et la politique d'assimilation ont voulu contrôler le corps des femmes et ont pris à cet effet toutes les mesures possibles. Faire un enfant et le garder est devenu alors une forme de résistance. Les femmes aspirent à une politique de contrôle des naissances de leur choix. Elles sont pleinement conscientes de l'intérêt général.
C'est ça. Françoise Vergès termine aussi son travail en écrivant « Les femmes sont pleinement conscientes de l'intérêt général et souhaitent le meilleur pour leurs enfants ». C'est justement comme ça que débute un autre livre, « La puissance des mères ». C'est un essai de Fatima Wassak qu'on a failli voir à Bourg, là, au théâtre, puis finalement elle n'a pas pu venir. Elle est politologue, elle travaille et elle vit à Bagneux, près de Paris. « La puissance des mères », c'est son premier livre. Elle l'écrit à partir de situations vécues. Quand elle devient maman, pendant cette période où elle est enceinte. Et à ce moment, elle dit...
Je ne suis plus qu'un corps de femme arabe, plus que jamais de classe populaire, un corps que l'on examine et manipule à l'envi. Et le langage, reconnu comme légitime appris à Sciences Po, ne me sert à rien, sauf à aggraver mon cas lorsque je m'exprime.
Lorsque sa première petite fille est à la crèche ou à l'école, elle s'aperçoit qu'il est difficile, voire qu'il est impossible d'être écoutée et reconnue comme une maman lambda, maman blanche, quand on est une femme descendant de l'immigration. Demander des repas sans viande, par exemple, parce qu'on a envie un peu d'être végétarien, eh ben, c'est interprété comme demander des repas halal. Laisser les cheveux libres de sa petite fille parce qu'on trouve que c'est joli ou que la gamine n'a pas envie de se faire coiffer le matin, eh ben, on est repris par les dames de la crèche parce que c'est dangereux de laisser ses cheveux attachés parce que, et quand elle demande mais pourquoi il y a d'autres enfants qui ont les cheveux qui ne sont pas attachés, bah, parce qu'il faut faire attention avec les cheveux fous. Voilà, des remarques qui font qu'au bout d'un moment, pour se faire entendre et pour que les maires, d'une façon générale, se fassent entendre dans les quartiers, Fatima Wassak crée avec d'autres femmes le groupe qui s'appelle le Front des maires, premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires. Leur but, lutter en vue d'une vie meilleure pour leurs enfants. Pas très compliqué, en fait. Des maires qui s'organisent avec les moyens de lutte et de pression des syndicats afin de faire reconnaître leurs droits et afin d'offrir à leurs enfants un avenir choisi, afin qu'ils soient épanouis. Et leur combat, eh ben, c'est l'écologie. Alors l'écologie, par exemple, que les enfants mangent des repas de qualité à l'école. C'est les inégalités scolaires, ben, simplement que leurs enfants puissent avoir un vrai choix d'orientation pour leurs études. Les violences interquartiers et puis les violences policières, parce que dans les quartiers, ben, on en a marre que nos gamins se fassent courser et se fassent... condamnée ou se fasse arrêter. Fatima Wassak, elle nous rappelle ses 150 enfants mis à genoux pendant plusieurs heures en décembre 2018 pendant l'épisode des Gilets jaunes. Non, les maires ne veulent pas servir de tampon entre l'État et les jeunes. Non, elles n'obligeront pas leurs enfants à rester enfermés chez eux devant la télé ou avec des jeux vidéo. Elles initient des projets culturels, des projets où sont transmis la culture d'origine, souvent niée.
Défaire, démonter, déboulonner, dévisser les dispositifs qui nous oppressent. Élargir, s'étendre, respirer, se libérer.
Voilà, un joli programme. Le Front des maires a un site, j'ai été voir hier pour voir si ça existait un peu de partout en France. Alors non, pas de partout en France, mais ce site qui s'ouvre en ce moment sur l'événement Braquage de la fête des maires, un joli titre, un week-end entier en Belgique qui réinvente, disent-elles, cette journée patriarcale et capitaliste pour la transformer en sororité et engagement. Spécial Palestine pour cette année. Autant dire que ce mouvement n'est pas toujours bien vu par tout le monde.
I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. I'm proud, free. Black, that is me. Does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night?
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B, le titre « Women of the Ghetto » de Marlena Shaw. En préparant l'émission, c'est demandé, au regard de tout ce qui vient d'être dit, quand on décide d'avoir un enfant, est-ce qu'on est vraiment libre de cette décision ? On retrouve, au-delà des politiques natalistes et de ce que peuvent nous offrir les différents gouvernements comme avantage à être mère, des injonctions globales de société.
Et oui, et si aujourd'hui contraception et IVG permettent effectivement d'être libre, de maîtriser sa fécondité, sont évidemment des avancées énormes, mais la pression sociale à se réaliser, à donner un sens à sa vie en faisant des enfants reste bien présente, bien vivante. La maternité, que nous la désirons, que nous la refusions, que nous y laissions entraîner, est au centre de la condition qui nous est faite, écrivait le collectif féministe Les Chimères en 71 dans Maternité esclave. Et Les Chimères de poursuivre. Nous avons un pouvoir énorme, celui de porter et de faire des enfants. Posséder un pouvoir, c'est l'exercer quand on veut. Et bien entendu, ne pas en user si l'on veut. Nous ne possédons donc pas notre pouvoir. Les hommes et la société qu'ils ont faite se le sont appropriés, d'une part en nous forçant à procréer, d'autre part en nous persuadant que nous le voulions. C'est ce qu'ils ont appelé l'instinct maternel.
Et oui, l'instinct maternel ou la fameuse horloge biologique. Par exemple, moi, à 30 ans, je me suis dit, vite, il faut que je me bouge. Si je veux un enfant après, ça risque d'être compliqué, je vais être bloquée. J'ai eu mon deuxième enfant à 37 ans et en fait, ma grossesse, elle s'est aussi bien passée que celle que j'avais eue 6 ans plus tôt. Alors, peut-être que je suis un cas particulier, mais j'ai l'impression autour de moi que les femmes ont des enfants un peu plus tard et puis finalement, tout va bien pour elles. Et puis, donc, tout ça, là, toute cette façon de penser, ce n'est pas venu tout seul. Hein. Il y avait effectivement une pression sociale. Hein. Les parents, les beaux-parents, les amis parfois, les séries, les films où on voit hein, toutes ces femmes, au bout d'un moment, une fois qu'elles ont leur conjoint, c'est parti au boulot. Et puis, il y a les médecins aussi hein, qui vous donnent leur avis. Donc, tout le monde y va de son avis. Après, ça sera plus dur, vous risquez d'avoir plus de difficultés avec les années supplémentaires pour tomber enceinte. Et puis, en plus, il se passe un truc. Quand enfin on tombe enceinte, c'est pas fini. Natacha, tu te souviens ?
Ah oui, je me souviens avoir eu l'impression de devenir une sorte de personnage public, une personne qui appartient à la communauté. Ah oui, le souvenir est franchement vivace. J'avais même pris en note des remarques, jugements et autres conseils, entre guillemets, que les gens me donnaient et qui m'avaient particulièrement choquée. Alors, entre la collègue qui lance, quand il sera né, je lui dirai, moi, à ton enfant, que tu le nourrissais n'importe comment parce que tu es enceinte et que tu manges ton sandwich devant ton écran au boulot.
Pas bien.
Non, mal. Celle qui te trouve trop vache parce que tu lui as répondu oh ben non lorsqu'elle s'est approchée de ton gros ventre pour le toucher. Ouais. Et encore, tu as eu de la chance, elle avait demandé avant si elle pouvait.
Oui, alors ça donne envie. Hein.
Ça rappelle la notion de consentement qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. On ne touche pas les gens sans qu'ils soient d'accord avant, leur demande. Hein.
Et non. Et entre le parent aussi hein, qui te demande si tu n'es pas trop déçu, que ce ne soit pas un garçon, entre aussi ce quasi-inconnu qui essaye de te convaincre que tu as tort de ne pas vouloir l'allaiter parce que pour le bébé c'est vraiment bien, dans les premiers jours notamment. Ce responsable encore qui t'ordonne de ne pas courir parce que vous êtes enceinte. C'est franchement, effectivement, un peu comme si on ne s'appartenait plus, que l'on n'était plus capable de prendre ses décisions par soi-même, ni de prendre soin de soi toute seule. Et que toute la société avait le droit de donner son avis, de nous dire quoi faire, de nous palper tranquillement. Et on a bien un peu envie, même beaucoup envie de hurler, mais lâchez-nous l'utérus.
Et puis après, l'enfant paraît et on se retrouve à nouveau avec plein de conseils contradictoires bien souvent, parce que bon, faut pas que ce soit simple non plus. Et puis le couple, il est face à un nouveau défi.
Oui, le couple hétérosexuel en particulier hein, est bousculé, notamment dans la répartition. Alors déjà, on sait massivement déséquilibrer des tâches domestiques, tu le rappelais Élodie en introduction. Et avec l'arrivée des enfants, c'est encore pire, les choses s'aggravent, la répartition se déséquilibre encore plus. Et cela même quand les deux partenaires sont de bonne volonté égalitaire. Emma, l'animatrice du blog féministe emmaclite.org et autrice de BD, le montre très bien dans ses bandes dessinées. Emma est notamment connue pour avoir popularisé la notion notion de charge mentale, c'est-à-dire tout ce travail invisible qui consiste à prévoir, planifier, organiser les tâches domestiques et qui pèse quasi exclusivement sur les femmes. C'est le « oh bah, tu m'as pas demandé » du partenaire quand sa compagne lui fait remarquer qu'il n'a pas fait la vaisselle, pourtant bien visible car l'évier déborde. Et la charge mentale, cette charge continue mais complètement invisible, augmente considérablement avec l'arrivée des enfants dans le couple. Pensez à prendre un rendez-vous pour le rappel de vaccin de l'enfant, anticiper la réunion à l'école, ne pas oublier l'inscription à la crèche, pensez au fait que l'enfant n'a plus de vêtements à sa taille, etc. etc.
On peut comprendre que certaines décident aussi de ne pas avoir d'enfants hein, dans cette organisation-là.
Ben oui, on en a parlé justement avec plusieurs jeunes femmes. On avait lancé un appel. Qui est-ce qui veut bien témoigner sur le fait de ne pas avoir d'enfants? Donc, c'est 5 femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui ont bien voulu passer par la case « ne pas être mère ». La première question, c'est « ne pas faire d'enfants, est-ce que c'est un choix? Pouvez-vous nous en donner les raisons ?»
Il n'y a pas eu l'occasion de faire un enfant. J'ai eu un moment, vers les 30 ans, une envie. Mais alors, je ne sais pas si c'est une envie physique ou une envie mentale d'avoir un enfant. Mais c'est très vite passé. Et puis voilà, ma vie, elle a avancé. Et voilà, il n'y a pas eu d'enfant de prévu.
Ce n'est pas un choix qui est... ferme et définitif. Je me dis que sur toute l'évolution d'une vie, ça peut changer. Mais en tout cas, c'est pas. Pour l'instant, je dis que je veux pas d'enfants parce que c'est un peut-être avec beaucoup de conditions. Et pour l'instant, les conditions sont pas réunies, ni politiques, ni écologiques, ni personnelles. Donc c'est un choix de pas le faire.
Ça fait maintenant 17 ans que je suis en couple, donc je suis bien avec mon conjoint. Donc au départ, oui, on avait plutôt prévu de faire un enfant. Vu les conditions actuelles, notamment justement l'écologie et l'avenir qui est un petit peu incertain par rapport à ça, enfin plus qu'un petit peu, je dis un petit peu, mais en fait, donc rien que ça, oui, du coup c'est un choix sans en être un, parce que les conditions... qui font que nous ne faisons pas d'enfants ne sont pas choisis par nous, quoi. Voilà.
La société nous pousse à faire des enfants, mais en réalité, elle ne nous en donne pas les moyens. Et surtout si on est une femme, on est très pénalisé au niveau du salaire, au niveau de... on prend un congé maternité, mais en fait, dans un couple hétéro, l'homme en fait, a un congé paternité absolument ridicule. Donc on ne peut absolument pas être accompagné. Il n'y a pas de place en crèche ou après tout coûte très cher. Alors moi j'habite en Angleterre donc c'est encore différent, mais ici la garde d'enfants est la troisième la plus chère au monde, donc les amis autour de moi qui ont des enfants sont obligés de reprendre un prêt bancaire pour pouvoir faire garder leur enfant si la femme veut pouvoir travailler en fait.
J'ai jamais eu envie d'avoir d'enfants en fait, tout simplement, j'aurais pu, mais je me suis jamais vue avec des enfants, mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi était évident quoi, dans mon parcours de vie, que je n'aurais pas d'enfant.
Alors presque toutes ces femmes disent avoir la chance d'avoir un milieu familial qui comprend leurs décisions, leur choix. Mais l'entourage direct, oui, d'accord, mais les autres?
Je ne me suis pas pris beaucoup de réflexion, contrairement à certaines personnes, parce que j'ai lu des témoignages de gens qui vivent des choses très compliquées. Mais je sens un malaise quand... Quand je dis que je ne veux pas avoir d'enfant, évidemment, il y a la question de toujours pourquoi, comme si en fait il fallait une raison pour ne pas en avoir, mais on n'avait pas besoin de raison pour en avoir.
J'ai eu longtemps un sentiment, quand on me demandait, que ce soit de façon administrative ou par curiosité, des amis ou même des connaissances, voilà, ou même les médecins dans le médical, vous avez des enfants, il y a toujours cette question-là. Et c'est vrai que... quand j'étais plus jeune, c'était presque une honte de dire non. C'était presque un manque, voilà. C'était presque comme si vous n'étiez pas terminé, quoi. Comme s'il manquait quelque chose. C'est pas évident, voilà. C'est pas évident d'être une femme sans enfant. Et j'ai toujours eu un peu le regard de les gens, même sans le dire, hein, sans reproche, sans rien, qu'on n'est pas adulte, on n'a pas atteint un âge adulte en fait. on n'est pas responsable, on n'est pas, et du coup on nous regarde, oui, comme si on n'avait pas grandi. C'est un peu bizarre, ouais.
Dans mon entourage, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de mal perçu. Peut-être l'oppression la plus récurrente qu'on a de faire des enfants nous vient de la publicité. Et au final, vu qu'on est beaucoup ciblés par les publicités maintenant, je me rends compte qu'arrivée à la trentaine, là, j'ai de plus en plus de pubs autour de moi, et sur téléphone notamment, pour des couches, pour des tests de grossesse, pour... En tout cas, qui véhicule beaucoup le fait que du bonheur que c'est d'être mère et de cette injonction-là. Et c'est un peu épuisant sur le long terme, en fait, de s'entendre répéter qu'on n'est pas complètement entière et complète si on n'a pas un enfant.
Bah, alors, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui questionne beaucoup les autres, je trouve. Les gens sont... quelquefois agressifs, hein, quelquefois... Voilà, le regard des autres n'est pas évident. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est très mal perçu, on va dire, dans la société. C'est pas dans la norme, quoi. On m'a laissé libre de mes choix, mais les gens ne comprennent pas, en fait, je pense. Ça paraît un petit peu une anomalie.
Même avant que je me dise que j'avais l'âge de m'y mettre, ça commençait déjà à dire « alors c'est pour quand ?» les parents, les beaux-parents, et même des gens qui, dans la famille, seraient aptes normalement à comprendre ce choix, parce que justement on parle beaucoup de politique, d'écologie et ce genre de choses, quand on leur dit « ah ben non, c'est plutôt pas parti pour, ah tu verras, tu dis ça maintenant, mais alors que... » Après, c'est vrai que comme j'ai un peu du caractère, je m'évite un stop et ça s'arrête vite. Mais c'est vrai que si on est un peu plus doux et si on est un peu plus influençable, ça peut être vite lourd, je pense.
C'est ça. Ne pas mettre un enfant au monde, ben c'est le choix de ces cinq femmes. Elles nous ont bien dit pourquoi. Mais alors, ces femmes-là, mais qu'est-ce qu'elles font de leur temps ?
Je ne regrette pas d'avoir pas fait d'enfant. Et je pense qu'on peut vivre, oui, d'autres choses. Que ça, que la maternité, voilà, et que c'est pas intrinsèque à la femme d'être mère, voilà, que c'est pas obligatoire.
C'est bien de se poser la question de ce qui nous rendrait ou nous rend vraiment heureux, et en tant que femme, ça paraît comme une évidence parce qu'on nous pousse vers là, alors que je pense qu'il y a plein d'hommes qui se posent pas la question, étonnamment. Mais bon, bref, et je pense qu'on peut s'accomplir sans avoir besoin d'être une mère. Donc oui, disons qu'on utilise son temps différemment et que je pense qu'on peut vraiment... avoir une bonne vie malgré ça, en fait.
Je sais pas trop, mais ce serait plutôt peut-être au niveau de la transmission, en fait, parce qu'on a toujours cette idée que transmettre pour la nouvelle génération, ce serait forcément avec ses propres enfants. Et il me semble que il y a toute une nouvelle idée à entretenir au niveau de ce que c'est que la transmission, que ce que c'est de partager en fait ces idées, de transmettre les choses aux enfants. On a plein d'enfants autour de nous en général, on a les enfants de ses amis, les enfants de la famille, et il me semble qu'on pourrait, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais en tout cas qu'il y aurait une idée à avoir au niveau d'une transmission plus globale des valeurs et des idées, qui ne seraient pas seulement à ses propres enfants, et d'ouvrir un peu ce qu'est la famille en fait au niveau traditionnel du terme.
Sans forcément être... l'instigatrice de cette naissance-là. Mais ça m'intéresse plus d'être sur le autour des enfants qui existent déjà, plutôt que d'apporter une nouvelle vie. Pour faire grandir un enfant, il faut tout un village, et moi, je veux bien faire partie de ce village-là.
Alors moi, je suis comédienne, hein, je suis créatrice, hein, mais si j'y réfléchis, je crois pas que j'ai fait ce métier-là. Moi, je suis pas sûre que j'aurais... Ouais. Je ne sais pas si j'aurais fait cette vie-là si j'avais eu des enfants. Je ne suis pas sûre du tout.
Oui, je pense que j'ai un rapport à la maternité qui est quand même hyper présent, mais ça, c'est un peu cliché, mais étant donné que je suis dans le spectacle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maternité avec les créations que je fais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accouchement, d'en donner au monde quelque chose. et avec tout ce que ça peut comporter de doute et d'angoisse et d'accaparement de cette nouvelle chose qui arrive au monde. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'apparenté à ça.
Quand on décide de pas avoir d'enfant, il y a cette espèce de besoin de faire quelque chose à la place, parce qu'il y a quand même cette idée que une femme à partir de 35-40 ans, c'est sûr qu'elle aura un enfant, donc ça, c'est son nouveau projet. Et moi, je me suis retrouvée face à un espèce de vide existentiel en me disant, mais du coup, moi, c'est quoi mon projet, en fait? Mais je me demande si les gens disent pas ça parce qu'en fait, on a très peu de modèles de femmes qui ont fait autrement. Et donc, on a l'impression qu'il faudrait remplacer cette création d'enfant par une autre création.
Ah ben, merci à Lucille, merci à Joël, à Christiane, merci à Aurélie et merci aussi à Elsa d'avoir répondu à ces questions qui sont des questions si personnelles et si intimes. Et puis, dit avec des mots choisis, ben on écoute Michel Bernard.
Mes enfants que je n'ai pas eus, mes petits oiseaux inconnus, nés dans mes nids imaginaires, vous qui n'aurez pas mes poussins, nagez dans l'eau de mon bassin, ni plongez tête la première dans la lumière. Je vous vois courir partout, m'insérer sur un caillou, une fleur, un coquillage, malheur, si je vous avais pondu dans la vie en vrai. Mais ça vous ferait quel âge? Dommage, dommage. Et j'ai peur de vous voir mourir, de vous manquer, de vous trahir, de quitter les îles d'enfance au creux des lignes de ma main. Il y avait pas vos quatre chemins, il y avait des chansons en partance, ma délivrance. Je vous vois courir partout, m'insérer sur un caillou, une fleur, un coquillage, malheur, si je vous avais pondu dans la vie en vrai. Mais ça vous ferait quel âge? Dommage, dommage. Et je vous les offre aujourd'hui, tous mes refrains tombés du nid, avec les oiseaux de passage, emportez-les aux quatre vents, nous nous y croiserons souvent. J'y ai caché votre héritage dans un nuage.
Des femmes décident d'être mères, d'autres non. Et puis, n'oublions pas, il y a aussi toutes celles qui le sont, mais dont le désir et le choix d'avoir des enfants est vu d'un mauvais œil. Toutes celles qui sont soumises à une forme d'injonction à la non-reproduction. On pense par exemple aux femmes en situation de handicap, aux femmes en détention, aux femmes et hommes trans, aux femmes des quartiers populaires, aux femmes roms.
Une grosse pensée à vous toutes. Merci Joël, Michel et Natacha.
Merci.
Merci à Jimmy à la technique. Rendez-vous le mois prochain parce qu'il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B.